Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose ce matin, pour notre méditation, un texte de l'évangile de Jean, au chapitre 2. C'est la suite du texte que nous avons médité en juillet avant notre départ en vacances. Verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » Les Juifs lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, alors que nous ouvrons ta parole, nous te prions que ton Esprit Saint nous rende disponible, malléable, que tu nous enseignes par ton Esprit Saint et que tu nous aides à mettre cette parole en pratique. Amen. Alors, je tiens tout d'abord à vous rassurer un tout petit peu. Nous avons passé des bonnes vacances et à notre retour, nous ne voulons pas tout casser, tout détruire dans cette église pour vous chasser les uns les autres. Non, c'est simplement que nous poursuivons notre série de prédication sur les signes dans l'évangile de Jean. Vous vous souvenez que nous avons commencé ça début juillet, nous avons médité sur les noces de Cana. En fait, dans l'évangile de Jean, il n'est jamais question de miracles, mais de signes. Et nous avions vu la fois dernière, en début juillet, qu'un signe était une manifestation visible d'une réalité qui renvoyait à une autre. Par exemple, si je vous dis la colombe, ça renvoie à la paix. Si je vous dis le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, ça renvoie à la France. Si je vous dis la virgule, ça vous renvoie à quoi? À la marque de Jean-Marc. La marque Nike, oui. Et dans l'évangile de Jean, les signes, le signe est une espèce de panneau indicateur, comme un petit moment où Dieu, dans sa parole, nous dit « Eh oh, oh, ce que je suis en train de faire là, en train de dire là, à travers mon Fils, c'est une façon pour moi de vous montrer ma gloire. » Alors c'est vrai que ce passage de Jésus qui chasse les vendeurs du temple ne sont classiquement pas intégrés dans les signes. On en compte en généralement 7. Mais bon, j'ai envie de poursuivre quand même ce texte parce qu'il est assez proche du texte que nous avons médité sur les noces de Cana. Et puis Jean, dans l'évangile, dans le chapitre 20, au verset 30, évoque beaucoup d'autres signes que Jésus a faits. Donc, à mon sens, le nombre n'importe peu. Bref, ce que je vous propose ce matin, c'est de méditer ce texte en 3 parties. D'abord, nous allons nous pencher sur la drôle de piété de Jésus. Ensuite, sa drôle de pédagogie pour expliquer aux autorités juives ce qu'il a fait. Et puis enfin, le point 3 sera la question du temple aujourd'hui. Autrement dit, qu'est-ce que l'on fait de ce texte-là aujourd'hui? Une drôle de piété à première vue de Jésus. C'est vrai que nous passons d'un épisode assez paisible, de noces. Jésus transforme l'eau en vin et puis se retire tranquillement avec sa famille et ses amis. Il vient là visiter le quotidien, l'ordinaire de ses amis, de ses compatriotes. Et puis arrive la Pâque des Juifs. Jésus vient à Jérusalem, comme ses compatriotes de sexe masculin à l'époque, pour fêter cette grande fête, la fête de Pâques. Vous vous souvenez de cette fête de Pâques qui rappelle la sortie d'Égypte et ses premiers-nés épargnés par le sang de l'agneau mis sur les linteaux des portes. Alors Jésus respecte bien la loi, celle du Deutéronome, chapitre 16, verset 16. Il vient, comme tous les autres, en pèlerinage à Jérusalem, au temple, lieu de la présence de Dieu. Mais d'un autre côté, il a quand même une drôle de piété, ce Jésus. Parce qu'il vient les mains vides. Et en cela, il ne respecte pas tout à fait la loi. Au verset 17 de ce même Deutéronome 16, il est dit « On ne paraîtra pas devant le Seigneur les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction que le Seigneur, ton Dieu, lui aura accordée. » Jésus respecte la loi d'un côté, et vient les mains vides, sans offrande, sans sacrifice, a priori, à offrir à Dieu. À la place de ça, il fait un fouet. Il est en train d'enfreindre même une loi, celle de l'interdiction d'avoir des armes dans le temple. Il prend le temps de faire un fouet pour chasser les vendeurs du temple, les échangeurs de monnaie. Alors, il ne s'agit pas d'une violence incontrôlée, démesuré, puisqu'il prend le temps de faire un fouet. Et il prend même le temps de dire aux vendeurs de colombes, « Allez, enlevez-moi toutes ces cages. » Quel drôle de piété que ce Jésus. Alors, pour bien comprendre tout ça, il faut revenir au début de notre passage. Jésus arrive dans ce temple et il voit des marchands de bestiaux. Alors, pas ceux qui sont en crise, comme les Bretons que nous avons pu expérimenter cet été. Il voit aussi des banquiers en train de faire leur petit business, là, tranquillement. Et c'est vrai que dans une interprétation assez classique du texte, on dit « Oh, Jésus, il est en train de chasser les méchants qui sont en train de faire des magouilles tranquillement dans le temple. » C'est vrai, d'un côté. Cette interprétation nous met un petit peu en garde sur le risque, la tentation de parfois de faire de la foi en Dieu, de la spiritualité un commerce. Mais en réalité, je vous propose une autre interprétation, une interprétation un peu différente. Parce que qu'est-ce que font ces vendeurs dans ce temple? À votre avis, que font-ils là? Est-ce que leur présence est légitime? Est-ce que les religieux, les pieux à cette époque, avaient besoin de bœufs, de colombes, de brebis, de monnaie pour se rendre au temple? Eh bien oui, eh bien oui. Parce qu'en réalité, ces marchands du temple-là rendent service à des pèlerins qui viennent de loin. Imaginez-vous faire des dizaines, des centaines de kilomètres à tirer une vache. Vous avez peut-être vu ce vieux film « La vache et le prisonnier » avec Fernandel qui tire sa vache pendant des kilomètres et des kilomètres. Alors, ce qu'est en train de faire finalement ce marchand de bœufs et ce marchand de brebis, c'est finalement de rendre service à ces personnes qui viennent de loin pour pouvoir finalement faire un sacrifice à Dieu. Et c'est pareil pour ces pseudo-banquiers. Ils ne sont pas en train de faire de la marchandise. Ils sont en train de permettre à ceux qui viennent de loin, à ceux qui ont des monnaies étrangères, de pouvoir payer la taxe au temple. Alors finalement, pourquoi Jésus fait ça? Si la présence de ces personnes-là est légitime, pourquoi les chasser? Jésus donne l'explication dans ces toutes petites paroles. Paroles assez un peu choquantes pour un fils de charpentier qui vient de Nazareth, une ville d'où il ne sort pas grand-chose de bon, semble-t-il. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Cessez. Jésus est en train de faire, par ces petites paroles, une allusion à un vieux texte du prophète Zacharie, au chapitre 14, qui promet un temps où Dieu reviendra habiter à Jérusalem. Un moment où Dieu rassemblera autour de lui des personnes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, pour pouvoir le louer. Un temps où il ne sera plus besoin de sacrifices. Un temps où Dieu sera présent tout le temps au milieu de son peuple. Alors, en chassant ces vendeurs, en chassant ces échangeurs de monnaie, Jésus est en train de dire, ce temps-là est en train de venir. Ce temps-là est venu. Comme aux noces de Cana, Jésus annonce la réalisation des promesses de Dieu. Quelque chose de nouveau, quelque chose de parfait est en train de se réaliser sous les yeux de Dieu. Et Jésus dit, cessez de faire de la maison de mon Père. Jésus est en train de dire à ces personnes qui le regardent, vous êtes en train de voir agir le Fils de Dieu. Et puis, comme on dit souvent, tel Père, tel Fils, n'est-ce pas? Parce que Jésus est en train d'agir comme Dieu le Père le faisait déjà dans l'Ancien Testament. Lui qui, bien des fois, a critiqué les sacrifices hypocrites. Lui qui, bien des fois, a refusé de voir venir à lui des personnes, oh, religieusement, extérieurement très pieuses, avec des beaux sacrifices, mais dont le cœur n'était pas sincère, était tortueux. Il y a ces textes d'Ésaïe, d'Amos, de Jérémie. Je voudrais juste lire un court extrait du texte d'Ésaïe, chapitre 1. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» dit le Seigneur. « Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des bêtes grasses. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez pour paraître en ma présence, qui vous demande de fouler les cours de mon temple ? Cessez d'apporter des offrandes inutiles. Je déteste vos nouvelles lunes et vos rencontres festives, elles me pèsent. Je suis las de les supporter. Quand vous tendez les mains, je ferme les yeux pour ne pas vous voir. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'entends pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos agissements mauvais. Cessez de faire du mal, apprenez à faire du bien, cherchez l'équité, redressez l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. Oui, le risque de ces sacrifices, c'est d'en faire un système de tractation, de marchandage. Et ça, ça ne marche pas dans la relation avec Dieu. Dieu n'en veut pas, Dieu n'en veut plus. On ne marchande pas avec Dieu. Et il est si tentant pour l'homme de faire, oh, une bonne action par-ci, une belle prière par-là, une aumône, en attendant une belle bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Et puis à l'inverse, il est souvent tentant de vivre les choses de cette façon-là. Oh, ça fait si longtemps que je n'ai pas prié. Ça fait si longtemps que je n'ai pas lu ma Bible. Ça fait si longtemps que je ne suis pas venu à l'église. Oh là, je pense que Dieu va me tomber dessus. Que nenni, niette. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas une divinité, une machine à sous. Dieu est une personne qui attend une relation personnelle avec chacune et chacun d'entre nous. Pas une relation commerciale, ni automatique. Ce qui plaît au Seigneur, ce n'est pas des sacrifices, des holocaustes. C'est le cœur d'un homme, d'une femme qui ressent son besoin de Dieu et qui est prêt à l'accueillir dans sa vie. Alors, on va faire une petite pause. On va s'arrêter. Juste un tout petit peu, dans quelques instants. On va un petit peu mener l'enquête pour essayer de comprendre ce que Jésus est en train de nous dire, là, à travers toutes ces choses, tous ces éléments. On va faire comme des experts, collecter les indices et puis voir ce que l'on peut en conclure. Premier indice, la scène se déroule pendant la Pâque juive, nous dit le texte de Jean. Est-ce qu'il existe d'autres Pâques que la Pâque juive à l'époque? Point d'interrogation. La scène a lieu dans le temple, ce lieu où Dieu et les hommes se rencontrent. Jésus tantôt respecte la loi, il vient bien faire son pèlerinage, tantôt il ne respecte pas la loi, il vient les mains vides. Jésus, dans ses paroles, fait allusion à Zacharie 14, ses promesses de Dieu qui promettent sa présence parmi les hommes et parmi les femmes. Il parle de la maison de son Père pour montrer sa filiation avec Dieu et aussi la continuité du message de Dieu, de son dégoût de cette religion parfois hypocrite, de ce système de sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça ? Si on met ça dans une machine, on fait le mix, voici à mon avis ce que l'on peut conclure. Jésus est d'abord fils de Dieu. Et comme son père, tel fils, dénonce ce système de sacrifice. Et il dit, au fond, ce système qui limite la présence de Dieu touche à sa fin. Quelque chose de plus grand, de plus parfait arrive. Les promesses de Dieu vont bientôt prendre vie. La présence de Dieu ne sera plus limitée dans le temps. Ça sera plus simplement à certaines fêtes que l'on pourra s'approcher de Dieu. Plus limité dans l'espace, ça ne sera plus dans un lieu, dans une ville, ni dans un temple, ni limité à des personnes. Il ne sera plus question de prêtres, mais chacun, chacune pourra s'approcher librement de Dieu. Et si ce temps nouveau était déjà là ? C'est ce que Jésus est en train de dire. Et il va le faire en répondant à une question des Juifs par une drôle de pédagogie. Parce qu'il va introduire un malentendu sur la question du temple. Ce n'est pas très pédagogique. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, quelqu'un vous pose une question assez simple et vous répondez à côté. Mais en fait, Jésus adopte une stratégie pour nous conduire à comprendre ce qu'il vient de faire. Jésus va faire le lien, par ses paroles, entre ce temple, cette réalité faite de pierre, de ciment, avec son propre corps. Alors, pour bien comprendre les choses, il faut situer ce qu'était le temple à cette époque-là. Le temple de Jérusalem, un symbole religieux national fort. Un temple qui avait d'abord été construit par Salomon, détruit par les Babyloniens, reconstruit par Zorobabel. Et puis à cette époque-là, il y avait cette forte croyance qu'à la fin des temps, quand celui qui doit sauver le monde viendra, un nouveau temple sera édifié. L'ancien sera détruit comme un signe d'un jugement, condamnation des choses anciennes, et un nouveau sera reconstruit, signe du salut que Dieu vient opérer. Alors, lorsque Jésus dit à ses amis, enfin à ses autorités juives, détruisez ce temple, pour ses autorités juives, ça devrait faire tilt. Mais eux restent à des préoccupations assez matérielles. En réalité, ce que Jésus est en train de dire, c'est que dans la destruction de ce temple, c'est aussi la destruction de son corps qu'il est en train de prédire, de prévoir. Et dans la reconstruction de son temple, de ce temple, c'est la résurrection de son corps pour inaugurer ce que les Juifs et ce que le monde entier attendaient, la présence de Dieu partout, tout le temps, pour quiconque. Alors, par ce geste, par cette idée de chasser ces marchands du temple, Jésus est en train de libérer de l'espace, de dire « ça y est, le temps est venu, le temps va s'accomplir de ses promesses, c'est moi, le Fils de Dieu, qui est venu pour accomplir ses promesses. » Alors Jésus, c'est vrai qu'il est venu les mains vides dans ce temple, mais bientôt, ses mains ne seront plus vides, mais ses mains seront percées, parce qu'il aura pris sur lui la condamnation du monde, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions vivre dans la présence de Dieu. Alors cette drôle de piété de Jésus, a priori, est en fait un espèce de concentré de ce que Jésus est venu accomplir par ses signes qu'il place devant nous, il est en train de révéler ce qu'il est venu accomplir. Troisième point, la question du temple aujourd'hui. En guise de conclusion, j'aimerais juste vous poser quelques questions et je vous laisse la parole. Où est le temple aujourd'hui? Où est le lieu où nous pouvons expérimenter la présence de Dieu? Où est ce lieu où on peut expérimenter la présence de Dieu? Question à 10 000 euros. Dans notre cœur, c'est une bonne réponse, mais pas celle que j'attendais. Où est ce lieu où on peut rencontrer Dieu? D'après notre texte, où est ce lieu? Vous avez le droit au 50-50, une question à un ami, etc. quoi. À la croix, on y est presque. Qui est sur la croix? Jésus. Le lieu de la présence de Dieu, le lieu où l'on peut rencontrer Dieu, c'est Jésus. C'est dans sa personne, c'est en lui que nous pouvons expérimenter la présence de Dieu. Alors c'est vrai, on utilise souvent l'image du temple comme cette image pour illustrer l'Église, mais le temple de la Nouvelle Alliance, c'est d'abord Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change? Parce que ce n'est pas vraiment un lieu finalement. J'aimerais bien être un moment peut-être en présence de Dieu, puis il y a des moments peut-être j'aimerais bien ne pas être en présence de Dieu, histoire qu'il ne voit pas ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que ça change que Jésus-Christ soit le temple de Dieu? Ça change beaucoup, beaucoup de choses. Parce que ça veut dire que ce temple-là est indestructible. Ce temple-là est éternel. Ce temple-là est illimité. Quiconque peut venir dans ce temple-là. Quiconque peut s'approcher de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est lui le seul médiateur qui conduit à Dieu. Alors, question suivante. On sait à peu près où il faut aller pour rencontrer Dieu. Ma question, c'est quand, ou plutôt comment rencontrer Dieu? Comment entrer dans ce lieu de la présence du Dieu vivant? Question à 20 000 euros cette fois-ci. Comment? Alors, par la grâce, oui. Mais concrètement, la prière, exactement, la prière. Et chers amis, si on considère que toute l'œuvre du Christ, sa mort, sa résurrection est faite pour que nous puissions prier Dieu à tout moment, à chaque instant. Si nous considérons que toute l'œuvre du Christ est faite pour que nous puissions prier, ça change totalement la perspective sur la prière. La prière n'est plus un rite, n'est plus une réunion obligatoire, n'est plus un moment obligatoire, froid. C'est le privilège des enfants de Dieu. C'est le moment où je prends conscience que Dieu est là, car Dieu est là tout le temps. Il est là, il ne sommeille pas, il ne dort pas, il nous garde, il nous aime. Et ce moment de la prière, c'est simplement ce moment où je prends conscience que Dieu est là et je me tourne vers lui pour dire « mon Père, notre Père ». Et c'est ce qui explique aussi cette action si violente, a priori, de Jésus. Car à côté de cette merveilleuse nouvelle, de cette présence de Dieu ouverte à quiconque, tout ce marchandage, tous ces sacrifices, ça peut sembler tellement révoltant, alors que Dieu, lui, veut simplement s'approcher de chacune et chacun des êtres vivants. Il fallait donc mettre un terme à tout cela. Qui l'a fait? Seul Dieu pouvait le faire à travers le Christ. Alors c'est vrai qu'il est bien des moments ou dans nos temps de prière, nous nous rendons compte que nous sommes un peu comme ce temple, finalement. Des moments où il y a des choses pas toujours très claires dans nos vies. Des moments où nous faisons beaucoup de calculs, de marchandage. Et le Christ nous invite simplement à nous approcher de Dieu, son Père. Il enlève tout cela. Viens simplement. La prière n'est pas une tractation, n'est pas un rite, n'est pas de formule magique, mais une rencontre que l'on peut faire au quotidien, à chaque moment. Il n'est pas forcément besoin de faire de grandes prières, de s'arrêter, mais simplement de vivre notre quotidien en prenant conscience que Dieu est là auprès de nous. Et combien je suis reconnaissant, et combien je me réjouis, comme a évoqué tout à l'heure Jean-Marc, que ce programme Vitalité, cette réflexion sur notre vie, soit entouré, baigné, imprégné de prières. Car ce texte, me semble-t-il, nous invite à nous qui sommes des pierres vivantes de cet édifice, à réfléchir, car nous ne sommes pas seuls à construire cette église. Nous sommes juste des petites briques vivantes. Celui qui édifie son église, celui qui veut en faire une maison du Père, une maison de prière, c'est le Christ. Mais il nous invite quand même à considérer nos outils, à nous revêtir, à prendre avec nous l'appel du pardon, la truelle de la paix et le ciment de l'amour. Alors, quand nous parlons, quand nous réfléchissons à Vitalité, que nous puissions simplement marcher ensemble, unis dans la prière, pour qu'ensemble nous puissions écouter, discerner ce que le Christ veut pour son Église, et que nous puissions ensemble vivre tout à nouveau la prière comme quelque chose d'incroyable, formidable, celle de prendre conscience que Dieu habite en nos cœurs et veut simplement nous rencontrer.